Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Actes, chapitre 2, versets 42 à 47 pour la méditation de ce jour. Au nom de Jésus, ils s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de miracles. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et repartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous sommes en plein tourmente virale. Tout change. Tout est remis en question. Il n'y a aucun domaine de la vie qui ne soit pas touché par ce virus. L'Église aussi en fait partie. Et d'ailleurs, l'Église vit quelque chose de similaire, à mon propre analyse, à ce qui s'était passé lors de la captivité babylonienne. Rappelez-vous, le temple a été détruit. Le mur de Jérusalem fortement endommagé. Tout le système a été secoué. Et pour un Israélite, vous imaginez ce que signifie la destruction du temple. Tout le système religieux est réduit en miettes parce que les prêtres et les grands prêtres ne pouvaient plus faire leurs rituels, les sacrifices. De ce fait, il y avait une soif. Il y avait un besoin intense chez les Israélites de garder sa foi malgré qu'ils soient loin de Jérusalem. À l'exemple de Daniel et de ses trois amis Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient pris la décision de ne pas manger à la table de l'empereur pour ne pas corrompre leur attachement à Israël et surtout garder leur identité. Chaque soir, Daniel, une fois arrivé chez lui, il allait sur sa terrasse, non pas pour se reposer, mais pour prier, se tournant vers la direction de Jérusalem. Et c'est ça qui lui a failli coûter la vie. Et en voyant ce que nous vivons actuellement, après ces quelques dimanches, sans pouvoir aller au temple pour assister au culte ou à la messe, on ressent un fort désir, un peu comme ces Israélites, de pouvoir à nouveau assister au culte qui auparavant, il faut l'avouer, en snobait un peu, on se disait, mais si je n'y vais pas de temps en temps, c'est pas si grave. Oui, c'est pas si grave. Mais maintenant, chacun d'entre vous prend conscience que c'est devenu un besoin, et même un besoin vital. Et cette ferveur, on le voit aussi au tout début de l'histoire de l'Église. D'où la question, d'où venait cette ferveur? L'auteur énumère ici quatre marqueurs, ou ce que j'appelle les quatre principales forces de l'Église. L'Église doit revoir ses forces. La première, c'est écrit dans le texte que nous avons aujourd'hui, il est dit que la communauté chrétienne était assidu à l'enseignement des apôtres. Voilà le premier pilier, assidu à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire à l'écriture. Deuxième force de l'Église, ils avaient une forte communion fraternelle. Troisième force, la communauté avait l'habitude de prendre la Sainte Cène ou la fraction du pain à chaque fois qu'ils se rencontraient. Et quatrième force, se situait dans la prière. Voilà les forces de l'Église au tout début. Ce sont les piliers qui font l'ADN de l'Église de Jésus-Christ. Et je me suis dit, le Seigneur nous remet dans une situation de scan pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce que l'Église de Jésus-Christ en 2020 en est aujourd'hui. Est-ce que nous sommes toujours dans ces quatre points importants? Retenez bien ces quatre, car dans la deuxième partie, nous verrons que ces forces ont donné aussi par la suite quatre impacts tangibles. Mais cette fois-ci, ces conséquences, ces impacts sont visibles pour ceux qui sont de l'extérieur de l'Église. Voici les quatre impacts vus de l'extérieur. L'éclat que les gens voient de l'extérieur sont, on va dire, tout d'abord, les prodiges. Les gens voyaient les prodiges. Les gens voyaient des signes à travers les apôtres. C'est étonnant, non? Deuxième rayonnement, la spontanéité des gens qui apportaient leurs dons. Et là, je mets entre parenthèses, ce n'est pas une organisation qui a été mise par les apôtres. Ça se faisait tout seul, initiative des gens. Il y avait vraiment une spontanéité. Troisième impact, vu de l'extérieur, l'assiduité au temple. Et enfin, la ferveur des nouveaux arrivants. Voilà les impacts écrits dans le texte. Donc ces impacts sont les fruits des quatre forces de l'Église. Donc vous voyez, il y a quatre chiffres qui reviennent deux fois. Les quatre forces de l'Église qui créent quatre impacts visibles. Et je tiens à attirer votre attention ce matin sur un détail qui peut-être vous semble insignifiant au départ, mais qui a retenu particulièrement mon attention personnelle. Regardez le verset 46. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. Je reprends. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple. Écoutez la suite. Ils partageaient ensemble le pain, c'est-à-dire la Sainte Cène, dans chaque maison. Ils partageaient le pain dans chaque maison. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. On croyait qu'ils avaient pris la Sainte Cène au temple, mais non, dans chaque maison. Heureusement qu'on a ce texte et comme par hasard, suite au texte du dimanche passé où nous avons eu la Sainte Cène, j'étais vraiment réjoui de voir ce détail, ce verset 46 qui me saute aux yeux. Donc on assiste à une multiplication des églises dans les maisons et non une concentration de l'Église dans un seul local. Vous voyez, ce n'est pas le modèle que les gens aimeraient bien avoir, les méga-churches, dans une grande salle où il y a 10 000 personnes, mais ce que Dieu a fait, des multiplications d'Églises dans chaque foyer. Et c'est ça l'image de l'Église de Jésus-Christ au tout début. Éparpillées un peu partout, des antennes partout. Voyez-vous, nous sommes en 2020 et pourtant ce texte a été destiné pour la première communauté au temps des apôtres, des milliers d'années avant nous, mais comme la parole est vivante, il nous parle aussi aujourd'hui. Voire même, ce texte est d'actualité. Alors les grandes questions qui se posent tout de suite à partir de ce qui a été dit, Quelles seraient les forces de l'Église de nos jours? À nous maintenant de nous faire une auto-évaluation. Quand je parle ici de l'Église, pas forcément la nôtre ici au boulevard d'Herbat, mais l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Où est-ce que l'Église puise-t-elle sa force aujourd'hui? Est-ce dans l'enseignement de la parole de Dieu? Est-ce que la fraction du pain est capitale pour cette Église? Ou c'est juste une pratique ou une option? Est-ce que l'Église puise encore sa force dans la prière? Ou est-ce juste une activité parmi tant d'autres? Voilà, une activité en plus dans l'Église? Il faut revoir nos bases, nos fondamentaux, chers frères et sœurs. Est-ce qu'elles sont dans la vraie communion fraternelle? Voilà les questions qu'il faut nous poser aujourd'hui. Nous avons le temps de réfléchir pendant ce temps de confinement. Où est-ce qu'on en est? Parce que si l'une de ces quatre forces manque ou a une faille ou une fissure, alors l'Église locale, elle est défaillante. À nous de voir où est-ce qu'il faudrait renforcer ou surtout à ne pas négliger. Et là, je m'adresse à tous les paroissiens de l'épuve de Namur. Comment est notre attitude face à ces choses? L'enseignement de la parole, prière, communion fraternelle et surtout le fait de se mettre ensemble autour de la table du Seigneur. Où est-ce que nous en sommes? Vous savez, la communion fraternelle, aujourd'hui, parfois prend beaucoup de place, ce qui n'est pas mal. Mais l'enseignement de la parole, parfois, est assez mou. Les gens préfèrent les choses où il y a plus d'ambiance, plus de fêtes, plus de rencontres, qui n'est pas mauvais en soi. Alors cette fraternité serait comme une coquille vide, vidée de son sens primordial. C'est bien de se retrouver ensemble. C'est bien de se voir tous les dimanches ici au boulevard d'Herbat. C'est bien de se dire bonjour autour d'une tasse de café à la fin du culte. C'est bien d'avoir une bonne entente. Mais tout cela ne tient pas la route si ce n'est pas la parole de Dieu qui nous unit d'abord. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui nous pousse à venir au culte. Et c'est cette parole qui nous maintient en vie. Sinon, ça deviendrait comme un club. Vous savez, il y a des clubs qui se réunissent tous les dimanches, club de pétanque, club de cartes, club de jeux de société. Il y a de bonne humeur, bonne entente, mais ce n'est que cela. Qu'est-ce qui nous différencie par rapport à ces moments-là? La façon dont l'auteur énumère les quatre forces principales de l'Église nous laisse entendre que tout se base sur l'enseignement, sur le ministère de la parole. C'est là le point important. La force que cette parole produit dans l'Église, on ne peut même pas l'imaginer. Cette parole produit des prodiges, des signes même visibles dans l'Église. Et je vous assure, chers frères et sœurs, les autres ministères au sein de l'Église viendront tout seuls lorsque la communauté est sur le chemin de la maturité scripturaire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu fait dans une Église quand sa parole est prêchée de façon claire et sans détour. Ce qui nous importe, ce n'est pas tout simplement d'enseigner, c'est pas ça, des choses justes et véridiques. Mais si ça n'arrête que jusque-là, alors nous tomberons dans une maladie qui a fait beaucoup de mal à l'Église au Moyen Âge et même jusqu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'orthodoxie morte. En quoi consiste l'orthodoxie morte? Elle consistait à rechercher un enseignement juste, correct, orthodoxe. Orthodoxe veut dire juste, bien droit. Et l'Église ne faisait que traquer tout ce qui était hérésie pour les sanctionner. Mais cela a servi à l'Église, bien sûr, à protéger les contenus de la foi. Mais là où l'Église a fauté, c'est qu'elle s'est juste arrêtée là, à prouver juste la véracité ou pas d'un enseignement théologique, en oubliant que dans les textes bibliques, il y a le logos, il y a la parole, Et cette parole a une force. Il y a la force de Dieu qui agit dans les cœurs des humains. Ce ne sont pas juste que des textes ou des littératures à manipuler et à tourner dans tous les sens pour savoir ce qui a été écrit, à qui ça a été destiné. Ce n'est que la première étape. Or, beaucoup d'églises s'arrêtent juste là. Et même aujourd'hui, les églises protestantes, dites historiques comme la nôtre, sont victimes de cet héritage historique. Nous avons oublié que derrière ces textes, l'Esprit de Dieu agit. Il agit et ne négligeons pas la dimension spirituelle des textes que nous prêchons tous les dimanches à chaque occasion. Malgré qu'il y a des problèmes textuels, bien sûr, ça on l'avoue, n'oublions pas que toute écriture a été inspirée de Dieu. Et l'inspiration de Dieu tient compte de la faiblesse de l'auteur. Et ce qui est magnifique dans la Bible, Dieu n'a pas effacé toutes ces faiblesses de l'homme. Au contraire, il les a gardées pour montrer que l'œuvre de Dieu agit toujours malgré la faiblesse de l'Église, malgré l'imperfection des ministres de la parole, malgré les chutes de l'Église de Jésus-Christ, Dieu y est toujours présent et il agit. Et cette inspiration divine qui fait que la parole agit dans l'Église produit des choses qui nous dépassent. Ici, dans notre communauté, nous avons vu de nos propres yeux l'œuvre de Dieu qu'il a fait, rien que dans notre paroisse. Rappelez-vous l'activité Un rein pour Benjamin, ne l'oubliez pas, c'était un miracle que Dieu avait fait. Nous n'avons pas eu les moyens de le faire, mais Dieu l'a fait. Grâce à la parole, grâce à cette parole qui agit. La parole de Dieu, elle change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Elle fait repentir les pécheurs. Et aussi, elle effectue des miracles qui s'opèrent de façon spontanée. Beaucoup peuvent en témoigner parmi vous. Oui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et je le crois. Il ne change pas. Ce n'est pas à nous de forcer les choses pour que ça se réalise. Peut-être que vous vous posez des questions. Comment ça se fait que dans votre église, vous ne faites pas des séances de guérison comme dans certaines communautés? Ce n'est pas à nous de le faire. C'est la parole qui agit tout seul. À nous de donner la place qu'elle mérite, la parole de Dieu dans son église. Et vous verrez comment Dieu va faire les choses qui vont même nous surprendre. Et à ce moment-là, Dieu n'a pas besoin du pasteur, Dieu n'a pas besoin de chacun d'entre nous pour que ces miracles s'accomplissent. Ils s'accomplissent tout seuls, pas besoin d'une personne pour téléguider ni commander Dieu. Et moi, personnellement, je crois en cela. Ce n'est pas le serviteur qui fait les miracles. Et ceux qui disent qu'il a un don de faire des miracles est à la limite quelqu'un qui usurpe le Saint-Esprit. Dieu, il agit quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Ce n'est pas à nous de programmer à tel moment il va faire ceci, à tel moment il va faire cela. C'est lui qui le fait. Il n'a pas besoin de moi. Je suis qu'un serviteur inutile, comme dit l'apôtre Paul. Il n'a pas besoin de toi pour faire son œuvre. Mais la seule chose qu'il nous demande, écoute ma parole. Prêche ma parole correctement. Et tu verras que j'agirai à partir de cette parole. Que la grâce de notre Seigneur vous soit tous en abondance. Amen.